le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Un pas de côté. Il est parfois utile et agréable de faire un pas de côté et d'explorer sa discipline à partir d'un autre endroit. Après les tables rondes sciences et société, les rencontres histoire de ma thèse et histoire de ma recherche, le Lab U propose un nouveau rendez-vous intitulé « Un pas de côté ». L'interview d'un enseignant-chercheur sur un ouvrage qui ne fait pas partie de sa discipline mais qui l'éclaire. Aujourd'hui, Valerne Dior, enseignant-chercheur en droit à l'UBO, directeur adjoint du LabLex, présente une bande dessinée de Karim Lebourg et Aude Massot, une saison à l'ONU, au cœur de la diplomatie mondiale, édition Steinkiss 2018. Est également présent un autre collègue du LabLex, Michael Laven. Bonjour Valerne Dior. Pourquoi avez-vous choisi de présenter la bande dessinée de Karim Lebourg et d'Aude Massot, une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale ?
Bonjour Hervé, et tout d'abord merci pour l'invitation. Alors pourquoi j'ai choisi cette bande dessinée ? Tout simplement parce que déjà c'est une bande dessinée, je trouve que c'est un format assez original à exploiter dans la perspective d'une approche un peu pédagogique du droit international. C'est une bande dessinée qui a été publiée en 2018, qui a été très médiatisée parce qu'elle constituait, selon les personnes qui l'ont lue et apprécié, un reflet fidèle du fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, pas uniquement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue politique. Et je me suis dit que c'est une bande dessinée que j'aimerais bien que les étudiants qui vont se spécialiser en droit international prennent le temps de lire, de découvrir. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce support et qu'il est vraiment passionnant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet ouvrage, et puis aussi parce que je l'aime bien, disons-le clairement.
D'accord, oui. Alors, est-ce que vous pourriez le présenter en quelques phrases ?
Oui, alors c'est donc une bande dessinée qui est le fruit d'une collaboration entre Karim Lebourg et Aude Massot. Karim Lebourg a la particularité d'avoir été correspondant de Radio France Internationale aux Nations Unies entre 2011 et 2014. Et avec cet ouvrage, il nous offre un témoignage de ces 4 ans qu'il a passé aux Nations Unies, ce qu'il appelle une saison. Il explique que finalement, de son point de vue, ça a été une saison aux Nations Unies. Et voilà, à travers son arrivée dans le centre des correspondants des Nations Unies, il nous explique un peu ses découvertes sur le fonctionnement de l'organisation, les arènes dans lesquelles finalement on se confronte des diplomates, des journalistes, des ONG et autres. Et on a des espèces d'encarts ou d'interludes qui ressemblent quasiment à des cours. Donc voilà, on a des diagrammes, des schémas qui nous expliquent voilà, à quoi sert le Conseil de sécurité, à quoi sert l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'est-ce que le veto, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 avec la Syrie, etc., etc. Donc c'est vraiment un ouvrage qui semble destiné à expliquer aux lecteurs la façon dont fonctionne réellement l'Organisation des Nations Unies et puis plus généralement la diplomatie internationale.
Oui, oui, c'est un peu le paradoxe des ouvrages. Il a une visée didactique immédiate avec des schémas, par exemple sur le droit de veto. Et en même temps, on suit un personnage qui nous fait rentrer dans l'ONU et qui donne peut-être un caractère particulièrement savoureux à cet ouvrage parce que on rentre par les sous-sols même. Je sais que la semaine, il y a 15 jours, Michael nous avait présenté un ouvrage et la saveur particulière de l'ordre du jour, donc il y a 15 jours, c'était l'écriture, notamment la façon dont l'auteur nous fait entrer dans le mobile des hommes, dans la grande politique. Si on parle de cet ouvrage donc sur l'ONU, qu'est-ce qui ferait sa saveur particulière ?
Eh bien, je dirais que c'est le côté quête initiatique, parce que finalement, Karim Lebourg, qui a eu une carrière, il a écrit d'autres ouvrages, il a participé à des bandes dessinées, à la revue dessinée aussi. Moi, j'ai été happé immédiatement par les premières cases, donc ce moment où il arrive à Starbucks, il vient de débarquer à New York, il n'est pas forcément très enthousiaste à l'idée d'avoir ce nouveau poste à New York, mais bon, il suit sa compagne, Nikki, qui va travailler pour le programme des Nations Unies sur le développement. Et il lui arrive, ce qui nous est tous arrivé, en tout cas moi ça m'est arrivé assez souvent, il veut commander une boisson, il se présente Karim, et la barista répond et note Kevin. Et ça devient une espèce de running gag tout au long de la bande dessinée. Alors moi, récemment, je me suis reconnu parce qu'avec un prénom comme Valère, le Starbucks, généralement, j'utilise un autre prénom pour commander mon café. Et c'est vrai que on pourrait craindre que cet ouvrage se contente de nous présenter de façon un peu soporifique les Nations Unies, ses organes, tout ça, alors qu'en réalité, à travers Karim, à travers sa compagne, et puis à travers la galerie de personnages qu'ils vont rencontrer tout au long des 4 ans qu'ils vont passer là-bas, ça rend le propos beaucoup plus vivant. Et puis, alors, faut dire aussi, le format bande dessinée est particulièrement adapté. C'est vrai que lorsqu'on lit un ouvrage sur la Charte des Nations Unies ou un manuel de droit international, c'est pas toujours aussi parlant. Là, je pense que si je mettais cet ouvrage entre les mains d'un étudiant de L3, il le lirait assez rapidement et me dirait à la fin « Waouh, j'ai compris ce que sont les Nations Unies » et en plus, ça a été présenté de façon assez légère, assez humoristique, alors même que souvent les thèmes sont assez dramatiques.
Oui, ben c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, j'ai l'impression d'avoir compris. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'ai l'impression d'avoir compris. Effectivement, à la lecture de cette BD, le fonctionnement de l'ONU. Et comme vous aussi, ouais, j'ai suivi le personnage, parce que moi je m'appelle Hervé, aux États-Unis c'était Harvey. Bon. Et oui, à la fois il y a...
Tout le monde n'a pas la chance de s'appeler Michael, Michael.
Ouais, c'est plus international. L'ouvrage a la forme d'une BD, témoignage, récit de vie, et propose une forme de reportage. Alors, à quelle forme de restitution, comment on pourrait décrire cette restitution dès lors qu'on s'interroge sur le rapport à la vérité, c'est-à-dire, comme c'est didactique, quel est le rapport à la vérité de quelque chose qui est donné comme à la fois un reportage, mais aussi la vie de quelqu'un. Comment l'auteur nous fait entrer dans l'ONU ?
Alors, il nous fait déjà entrer par la petite porte, mais j'ai même envie de dire par le sous-sol, parce que la première chose qu'il fait en arrivant aux Nations Unies, c'est de se perdre. Il passe devant une porte qu'il pense être le centre de commandement, et finalement, on découvrira plus tard que, bon, je vais pas spoiler, mais que cette salle n'a aucun intérêt. Donc, il entre littéralement par les sous-sols, et au fur et à mesure, il prend de l'expérience, et il endosse la fonction, et puis il rencontre des personnalités de plus en plus importantes, jusqu'à rencontrer à un moment donné le secrétaire général des Nations Unies, puis rencontrer un certain nombre de délégués. Donc, de ce point de vue-là, on a une entrée qui se fait en toute modestie, et puis à la fin des 4 ans, on sent que le personnage, je ne vais pas dire l'auteur, mais plutôt que le personnage que Karim nous présente, est devenu véritablement un correspondant aux Nations Unies complètement accompli. Et alors, peut-être sur le rapport à la vérité, en tant qu'enseignant en droit international, moi j'ai complètement reconnu dans les différentes cases de la bande dessinée et puis dans les différents schémas des éléments que je présente à mes étudiants dans le cadre du cours de droit international. Que ce soit sur le recours au veto, que ce soit sur certaines crises internationales qui ont affecté les Nations Unies entre 2011 et 2014, que ce soit sur la présentation de certains discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, que ce soit sur... En gros, je trouve que c'est un ouvrage qui est le reflet fidèle de ce qui se passe à l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, ce sont des éléments qu'on peut documenter. Il suffit d'aller sur les archives du Monde ou du Figaro pour trouver tous ces éléments. Et donc, il me semble que c'est vraiment un témoignage qui est fidèle. Je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement romancé. Peut-être la partie qui concerne sa vie personnelle, ça, on peut pas le savoir.
Mais c'est ça, on voit le héros vivre et là on est dans la vie de quelqu'un.
Ouais. Voilà, donc ça, on ne peut pas savoir quelle est la part de vérité. Par contre, pour tout ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, la vie internationale, ça me semble assez fidèle.
Vous avez mentionné plusieurs épisodes. Est-ce qu'on pourrait faire un focus sur un épisode particulièrement intéressant décrit dans cet ouvrage ?
Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal et force est de constater que la période entre 2011 et 2014 a été particulièrement dense. Il nous décrit à plusieurs reprises les débuts de ce qu'on va appeler la crise syrienne, dont je dois rappeler désormais qu'elle date d'une décennie, ce qui est particulièrement troublant. La puissance américaine est souvent rappelée aussi, en montrant que voilà que c'est quand même un État qui domine l'Organisation des Nations Unies. Je pense que malgré tout, et c'est pas forcément le fait le plus marquant du point de vue des relations internationales, le passage qui m'a marqué, c'est le moment où Karim Lebourg rencontre le secrétaire général des Nations Unies. Et après une phase d'excitation qui est tout à fait légitime, voilà, je suis correspondant à RFI, il y a quelques temps j'étais un simple débutant, et puis maintenant j'ai rencontré le big boss. On le voit particulièrement déçu parce qu'il sent que le secrétaire général n'a pas forcément grand-chose à offrir, que c'est vraiment la courroie de transmission de l'institution. Voilà, le secrétaire général des Nations Unies semblait vraiment incarner l'institution. Et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de substance. Et il est très déçu. Et moi, c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est un peu l'image que les internationalistes ont de Ban Ki-moon en tant que secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas un secrétaire général qui nous a marqué comme étant particulièrement audacieux. Et c'est vrai que de le voir en bande dessinée à travers son regard, ça m'a semblé particulièrement intéressant.
D'accord, oui, oui. Oui, il y a un autre épisode, moi, qui m'a frappé, c'est un moment, il raconte donc, il y a un diplomate indien à qui on remet un texte qu'il doit dire. Donc il lit son texte et le texte raconte quelque chose qui se passe au Portugal et qui a strictement rien à voir avec lui. Et il met plusieurs minutes avant de se rendre compte que c'est pas son papier et que donc il dit n'importe quoi. Et il semble que personne, enfin s'en offusque en tout cas, personne réagit. Alors la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est possible ? Est-ce que bon, un, c'est déjà arrivé peut-être, je sais pas, mais est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible que un tel endroit où on vient de très loin parler, raconter, être le porte-parole de son pays, on puisse se tromper de texte et raconter autre chose ?
Alors je maintiens mes propos tout à l'heure sur le caractère réaliste et sur la véracité de tout ce qui se, tous les événements internationaux qui sont décrits dans cette bande dessinée. C'est tellement possible que ça s'est produit. Et d'ailleurs Gérard Haro qui a préfacé l'ouvrage. Voilà, on a été le témoin, il me semble, à l'époque. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs discours mythiques de l'Organisation des Nations Unies qui sont mentionnés dans cette bande dessinée. D'ailleurs, ce sont des discours que je présente dans le cadre de mon enseignement en droit international. Je mentionne à un moment donné la place du discours, l'importance du discours d'un certain nombre de chefs d'État et de représentants diplomatiques à l'Assemblée Générale. C'est loin d'être le discours le plus marquant. Moi, le discours qui m'a le plus marqué, c'est plutôt celui de Kadhafi. Feu Muammar Kadhafi, donc l'ancien dirigeant, dictateur libyen, disons-le très clairement, qui s'excite pendant 97 minutes, il me semble, à la chaire. Son pauvre interprète est en train d'essayer de suivre en cabine, et puis concrètement, à la fin de la phase de traduction, la légende a peut-être exagéré les faits, mais des sources convergentes indiquent que le traducteur, l'interprète, se serait évanoui, aurait perdu connaissance, tellement il était difficile pour lui de suivre la cadence. Alors, il y a plein d'autres discours qu'on pourrait mentionner qui ne correspondent pas forcément à cette période. Le discours de Dominique de Villepin au début des années...
Celui-là, je crois, ouais.
Voilà. Mais oui, il y a une place très importante des discours, et puis j'ai envie de dire des mauvais discours, des discours un peu mythiques, des discours qui ont été des échecs, comme celui-ci. Le premier discours de Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a suscité l'hilarité générale de l'ensemble des... Voilà. Je pense que ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, un exemple marquant de tout ce qui peut se faire de bien et surtout de très mal. On fraude l'amateurisme à l'Organisation des Nations Unies dans certaines délégations. Il ne faut pas penser que cet accident est le reflet du travail de l'ensemble des personnes et des fonctionnaires internationaux.
Alors, tout au long de l'ouvrage, il est fait mention d'une chronologie. Bon, 45, c'est la création. Février 2003, la guerre en Irak, la deuxième. Février 2011, la Libye, justement, puisque Kadhafi vient dire que ça va saigner, en gros. Et voilà, quel est l'intérêt de cette chronologie ?
Je pense que ce sont des dates qui sont importantes dans l'histoire du droit international et surtout dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, parce que souvent, ce sont des dates qui représentent des étapes, des moments durant lesquels on a identifié des tensions entre les États membres des Nations Unies, entre les États membres du Conseil de sécurité, des membres, de grâce pour l'Organisation des Nations Unies, 1945, la création. Au contraire, les années 2010, c'est plutôt l'époque des grands blocages, des vétos historiques par rapport à un certain nombre de puissances sur le territoire desquelles les États membres auraient souhaité intervenir. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu cette chronologie dans l'ouvrage, je me suis dit, tiens, ça correspond véritablement à des dates un peu clés qui apparaissent dans mon cours de droit international. Lorsqu'on mentionne la Charte des Nations Unies, lorsqu'on mentionne finalement le recours à la force, les questions d'ingérence, les questions d'agression. Donc voilà, il ne se limite pas à cette période 2011-2014. Les étudiants qui sont intéressés par la Charte des Nations Unies pourront avoir un aperçu des dates qui ont compté pour cette organisation et pour ces États.
Alors, dans le cadre justement de la pédagogie, est-ce que les grands rouages de l'ONU sont bien écrits ?
Je trouve que globalement, oui, c'est le cas. Et puis d'ailleurs, si je pouvais, je prendrais certains schémas de la bande dessinée et puis je les intégrerais directement dans mes PowerPoint en cours. Il y a un certain nombre de schémas qui sont très bien faits. Hein. Donc là, je pense que c'est Aude Masson dont il faut louer le travail, sans doute en collaboration avec Karim Lebourg, pour comprendre le fonctionnement de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, le veto, les membres permanents. Donc voilà. On sent que l'ouvrage est destiné à des personnes qui ne connaissent pas nécessairement l'Organisation des Nations Unies et l'ouvrage leur offre les moyens, les outils nécessaires pour comprendre les faits, même les actualités qui sont présentées par l'auteur.
Oui, vous avez mentionné le droit de veto. Alors moi, ça m'a étonné, enfin, après réflexion, parce que bon, j'ai lu le livre, et voilà, 5 pays, je le savais déjà, mais je ne m'étais jamais posé la question. Ouais. Que fait donc la France au milieu de la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, et qui avait quand même été très actif pendant la dernière guerre, l'Angleterre, la guerre mondiale, la France moins. Comment la France a réussi à prendre une place en 1945 à cet endroit-là, qui est l'endroit clé un peu quand même de l'ONU?
Bah, alors je dirais quasiment à la dernière minute. Hein, je crois me souvenir, j'ai plus exactement les dates en tête, mais ça s'est essentiellement joué à la conférence de Yalta. Dans un premier temps, la France n'était pas forcément prévue comme étant membre permanent de du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, et puis elle a été invitée quasiment par, je ne vais pas dire par charité, mais c'est un peu ça, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, c'était un pays qui était culturellement, économiquement et symboliquement important pour la construction européenne. Alors après, c'est toujours intéressant de parler du Conseil de sécurité, parce que moi, quand je souhaite vérifier que mes étudiants ont suivi le cours et qu'ils ont un minimum de culture générale, je leur demande, est-ce que vous savez qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité? Donc c'est un peu comme les 7 nains, on ne sait jamais trop si on va réussir à sortir le dernier. Et puis surtout, il y a des débats très importants depuis quelques années sur la reconfiguration du Conseil de sécurité, parce que concrètement, ce veto est une source d'insatisfaction pour de très nombreux pays puissants, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. Donc voilà, ce veto, c'est pas uniquement la question de est-ce que le veto c'est bien ou c'est mauvais, c'est la question de à qui on a octroyé ce veto, et est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'on l'étende à des pays qui, certes, n'étaient pas considérés comme les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui ont une place dans la société internationale. Alors, peut-être sur la question du veto en tant que tel, je trouve que Karim Lebourg, voilà, je voudrais pas me mettre dans ses chaussures, je trouve que Karim Lebourg a une approche très nuancée sur le veto. Il consacre plusieurs développements, on a veto 1, veto 2, veto 3 dans la bande dessinée, oui. Et il ne cède pas à la facilité de dire le veto c'est mal.
Non, il est plus subtil.
Il est beaucoup plus subtil que ça. Le veto reste un instrument juridique, et moi c'est ce que j'explique à chaque fois aux étudiants, parce que les étudiants en droit sont toujours indignés par le recours au veto, notamment lorsque c'est dans le cadre de décisions visant des atrocités de masse qui se déroulent en Syrie, oui, en Corée du Nord. Mais le veto reste un instrument juridique qui a été élaboré pour permettre pour donner la possibilité à un groupe de 5 États, y compris individuellement, de prévenir des abus commis par le Conseil de sécurité ou plus généralement par l'Organisation des Nations Unies. Et concrètement, c'est un outil qui peut être mal exploité. Et je crois que c'est plutôt ça que la bande dessinée met en avant, que certains États ont tendance à utiliser le veto à des fins qui ne sont pas des fins d'intérêt public international, mais qui sont plutôt des fins stratégiques ou des fins économiques pour soutenir tel pays ou tel pays. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on écrit sous le veto. Et peut-être simplement pour brièvement, la France mène une réflexion depuis le milieu des années 2010, sous l'impulsion de l'ancien président François Hollande, pour s'engager moralement à limiter son recours au veto.
D'accord. On voit l'ONU, bon, c'est 1945, mais c'est encore là. Et on vit une période où la géostratégie modifie un peu. Enfin, les équilibres géostratégiques semblent évoluer, en tout cas. Ouais. Donc, est-ce que la compréhension du fonctionnement de l'ONU a-t-elle une importance particulière dans la période que l'on vit aujourd'hui, avec certaines, peut-être, modifications des grands équilibres?
Alors, oui, je pense que c'est important, alors, surtout qu'on sorte d'une période qu'on a définie comme troublée, ou comme une période de crise du multilatéralisme, oui, comme une période de crise de la société internationale, et surtout une période durant laquelle un certain nombre d'observateurs, dont je ne citerai pas le nom, a réaffirmé l'inutilité des Nations Unies face à la puissance américaine et à la puissance chinoise. Bon, le président Donald Trump n'est plus en fonction, et on peut imaginer que les choses vont changer. Mais on lit assez souvent des erreurs, hein, ou même des malfaçons dans les articles par rapport à ce qu'est l'Organisation des Nations Unies, par rapport, oui, à ce qu'elle peut faire, à ce qu'elle ne peut pas faire. Et surtout, je pense qu'on commet une erreur assez fréquemment, et ça c'est ce que j'essaie de faire passer à mes étudiants dès le début du cours de droit international en L3, de leur dire, attention, l'ONU, ce n'est pas la seule organisation internationale qui mène des activités ayant une importance pour les États. Il faut penser à OMS, c'est peut-être pas le meilleur exemple en ce moment, mais l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, le Fonds monétaire international, le PNUD, l'OCDE. Et pourquoi aussi est-il important de comprendre ce qu'est l'ONU, et je pense que cette bande dessinée y contribue, c'est parce qu'il y a de très nombreux débats sur ce qu'on appelle l'impossible réforme des Nations Unies. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour appeler à une modification du fonctionnement de certains organes. On veut étendre finalement le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité. La question se pose de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter un pays africain ? Est-ce qu'on ne devrait pas ajouter un autre pays asiatique ? Et pour envisager ces réformes, il faut déjà comprendre de quoi on parle. Et force est de constater que parfois on ne comprend pas véritablement ce qu'est l'ONU, quels sont ses organes et ce qu'ils font chacun. Et évidemment, voilà, je trouve que cet ouvrage y contribue, d'autant qu'il a un mérite, c'est de rappeler que l'ONU et le Conseil de sécurité, c'est ce qu'en font les États membres.
Oui, voilà, ça me permet une transition vers une deuxième question qui est, je cite, que le secrétaire général de l'ONU de 53 à 61, « L'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer. » Alors, vous avez 5 heures.
Je crois que c'est un sujet de concours de haute fonction publique. Hein. Citation de Dag Hammarskjöld, qui était un ancien secrétaire général des Nations Unies. J'ai bien compris qu'il y avait une petite réticence à l'idée de prononcer ce nom, donc j'ai pris le relais. L'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer. C'est sûr qu'on a plus tendance à s'étendre sur les failles ou sur les faiblesses des Nations Unies que sur les succès ou les réussites de l'Organisation des Nations Unies. Alors, on parle de la famille des Nations Unies, un certain nombre d'institutions spécialisées, d'organisations internationales parviennent à faire des choses dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la protection de certaines minorités, des personnes vulnérables. Il est certain que la situation serait sans doute pire sans l'Organisation des Nations Unies qu'elle ne l'est actuellement. En tout cas, c'est peut-être le message qu'essaie de nous faire passer l'auteur dès lors qu'il choisit cette citation comme introduction de cet ouvrage. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il nous met cette citation-là ? Et la préface de Gérard Haro nous confirme ce qu'on pensait déjà, à savoir que finalement, Karim Lebourg semble plutôt favorable à l'Organisation des Nations Unies, alors même qu'il en a finalement visité les entrailles et qu'il pourrait être le premier à nous dire « ça ne sert à rien ». Et ce n'est clairement pas le message qu'il relaie à travers cette bande dessinée.
Ça m'amène directement sur une question avec laquelle je comptais conclure, mais j'y vais tout de suite parce qu'on est dessus en fait. L'énorme question, qu'est-ce que la diplomatie ? Moi, l'autre jour, j'en ai parlé avec mon enfant de 11 ans et je me suis aperçu que j'étais un peu pauvre, en fait. Et donc, je lui ai dit, je vais voir un juriste spécialiste du droit international et je vais lui poser la question. Donc, comment le droit et la diplomatie s'articulent au niveau mondial ? Que resterait-il sans l'ONU ? On y a répondu, là. Le souhait d'une communauté internationale s'inscrit-il dans d'autres institutions ? On a aussi en partie répondu. Mais alors, si on voudrait définir qu'est-ce que la diplomatie, surtout au niveau international, moi, ça me semble impossible à définir, mais vous êtes spécialiste.
Alors, c'est tout aussi difficile pour moi, parce que je ne pense pas qu'il y ait une conception consensuelle de ce qu'est la diplomatie. Alors, en plus, si c'est destiné à un enfant de 11 ans, j'avoue que...
Vous avez écrit un article dans un dictionnaire.
Oui, dans un dictionnaire dont j'assure la direction, le dictionnaire de l'actualité internationale, et qui va publié dans quelques jours. Et justement, je me suis posé la question, pas tellement de la manière dont on doit définir la diplomatie, mais de la manière dont elle est décrite par ses propres acteurs et puis par les médias. Alors, il n'y a pas de définition consensuelle de ce qu'est la diplomatie. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas confondre la diplomatie avec le droit. Le droit peut être un outil au service des diplomates, peut être une fin. Voilà, les diplomates vont militer pour que leur pair respecte le droit. Mais il ne faudrait pas penser qu'un cours de droit international va être un cours de diplomatie internationale. Un cours de diplomatie, c'est un mélange de savoir-faire, d'art, de négociation. Alors, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire entrer dans la diplomatie internationale ? Alors, on parle souvent de l'art de la négociation, c'est l'art de négocier avec ses pairs, hein, de la même façon qu'on parle de diplomatie dans le cadre de la vie courante. C'est l'idée aussi de développer une sphère d'influence à l'échelle internationale. Voilà, oui, on parle de la diplomatie, de soft power, notamment une stratégie qui est développée par la Russie depuis quelques années. Mais si on essaie de résumer l'idée de diplomatie, on pourrait dire que, en réalité, la diplomatie, avec un grand D, c'est une variété d'acteurs et d'institutions ambassades, consulats, un certain nombre de collectivités, de représentants qui vont participer à des réseaux de représentation d'un État à l'échelle internationale.
C'est un dispositif.
C'est un dispositif, voilà. C'est véritablement un réseau de personnes et d'institutions qui vont représenter les intérêts d'un État.
Dans lequel on peut peut-être inclure les mouvements des porte-avions, par exemple, dans la mer de Chine ou des choses comme ça ou...
Alors, je ne sais pas si c'est de la diplomatie ou si c'est de l'intimidation, mais bon, ça, on pourra en discuter, c'est un autre débat. D'accord. On pourra en discuter après, éventuellement. Mais oui, voilà, très clairement, a priori, c'est plutôt un processus qui est pacifique, hein. On parle de diplomatie, oui, de soft power, de politique extérieure aussi. D'accord. Parfois on assimile la diplomatie à la politique extérieure, mais voilà, la diplomatie, ce n'est pas en tout cas strictement le droit. Ça peut être le droit international peut être un élément ou un outil au service de la diplomatie, mais pour moi ça ne se résume pas à ça. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt cette idée de réseau d'acteurs, d'institutions, le ministère des Affaires étrangères, les ambassades, la coopération culturelle, et donc voilà, là on a un aperçu dans cet ouvrage de la diplomatie, et on voit d'ailleurs que les personnes qui conversent dans cet ouvrage ne parlent qu'assez rarement de droit, en réalité, mais d'accord, plutôt d'intérêt stratégique.
Donc on voit, vous êtes vraiment pédagogue.
C'est bien gentil.
Parce que la diplomatie, c'est compliqué à expliquer, je vais revenir vers mon gamin et lui dire... oui, alors, vous êtes pédagogue, vous êtes aussi chercheur. Et on a un deuxième lecteur ici, donc Michael Lavenne, qui la semaine dernière, là, il y a 15 jours, nous a présenté l'ordre du jour, hein, de Vullard. Michael, vous avez lu aussi l'ONU, là, le livre sur l'ONU. Alors, peut-être comment ça vous parle en tant que pédagogue, mais peut-être plus en tant que chercheur, non pas de droit international, mais droit public interne. Mais bon, le droit international est aussi du droit public. Donc comment cet ouvrage, à vous, vous a parlé, ouais.
Alors c'est vrai, je ne suis pas du tout spécialiste de droit international, et donc j'ai appris des choses en le lisant, et même des choses que j'avais peut-être appris durant ma formation, mais qui étaient bien mieux expliquées dans le bouquin à travers les dessins, et je trouvais que c'était utile. Après, sur l'aspect recherche, je suis assez épaté quand même de voir combien des choses qui peuvent paraître complexes d'un regard extérieur sont rendus finalement assez simples, ou en tout cas humaines. C'est peut-être ça d'ailleurs le secret du bouquin, c'est de... Il rend pas les choses simples, il les rend humaines, donc compréhensibles. Mmh. Et donc, du point de vue de la recherche, ce serait peut-être ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rend, par le biais de rendre humain des savoirs, les rendre plus compréhensibles.
D'accord. J'en reviens à vous, Valère. Même question, enfin, est-ce que cet ouvrage a fait bifurquer vos lectures, votre approche du droit, vos réflexions, vos écritures?
Disons que ça m'a conforté dans une position, en tout cas dans des interrogations que j'avais depuis pas mal d'années, depuis l'époque où j'étais en thèse. Être juriste en droit international en France, dans la sphère du droit, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a souvent des blagues, on dit « Ah, les juristes en droit international, c'est pas des vrais juristes, hein, on sait très bien que c'est plutôt des rapports de force, c'est de la géopolitique. »
Ah oui, oui.
Voilà, qui définit le droit international? Ce sont les Américains, ou alors maintenant ce sont les Chinois. Donc c'est vrai qu'on passe notre temps à devoir expliquer qu'il existe des mécanismes juridiques qui, même si parfois ils sont instrumentalisés, existent, et que d'ailleurs il existe des instrumentalisations de mécanismes juridiques, y compris dans d'autres disciplines de droit. Donc ça m'a conforté véritablement dans mes perspectives. Je vois que ça fait rire Michael, qui est en train de se dire que je l'attaque, mais non, pas du tout.
Si, parmi les juristes, il y a des tribus, hein, faut le savoir.
Bah. Oui, voilà, il y a des tribus, il y a des sectes, il y a des paroisses. Et c'est vrai que ça m'a donné aussi... ça a été un élément qui a contribué à une réflexion de ma part sur le discours des relations internationales, le discours des institutions internationales, le discours des diplomates. On voit beaucoup de mots qui sont utilisés par les diplomates que rencontre Karim Lebourg, voilà, des éléments de langage. Comment est-ce qu'on rédige une résolution? Est-ce qu'on est particulièrement inquiet, préoccupé, etc., etc. Et je me suis dit, wow, ce serait quand même pas mal de réfléchir un peu sur ce langage des relations internationales. Et donc, voilà, j'ai commencé à mener une démarche de recherche en perspective d'essayer de décrypter un peu tous ces termes avec le soutien d'un certain nombre de collègues.
Donc cet ouvrage a déclenché... Un travail de recherche.
Exactement, voilà. Un dictionnaire de l'actualité internationale, justement, qui paraîtra dans quelques jours.
Et auquel participe d'ailleurs Michael. Oui, il m'a donné le nom de l'ouvrage.
Et le dictionnaire de l'actualité internationale.
Le dictionnaire de l'actualité internationale.
Voilà, auquel a d'ailleurs participé Michael, sur certains termes, tels que discours, notamment.
Donc la bibliothèque, parce que moi je suis bibliothécaire, ne manquera pas d'acheter dès que vous le dès qu'il est paru. Hein.
Bah, la semaine prochaine, je crois.
La semaine prochaine, super. Merci à Valère Dior et à Michael Laven, tous deux enseignants-chercheurs en droit libéraux au laboratoire Le Lablex. Lors de notre prochain rendez-vous, Valère Dior, enseignant-chercheur donc au Lablex, présentera l'ouvrage d'Isabelle Rome, « Vous êtes naïve, Madame le juge, prison, délinquance, récidive, ces mots qui font peur » aux éditions du Moment 2012.